et tout cela.
Française, français.
C'est grâce à vous.
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
La présidence de la République, ça n'est pas un radio-crochet.
Ça, c'est une autre façon de faire de la politique.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf.
Alors, eh ben écoutez, j'ai le docteur Jean-Pierre Foubert, toujours fidèle à la table d'opération pour que cela se soigne. Mais on devait avoir aussi Benjamin Théoul, notre journaliste qui cherche des remèdes, et n'en a pas trouvé ce soir, donc on va dire qu'il est excusé. Ah, Jean-Pierre, on vaut Dieu ça.
Oui, allez, disons ça.
Oh, il a beaucoup d'occupations, Benjamin. Il s'occupe notamment d'une revue dont il est le rédacteur en chef.
Absolument.
Bon, alors donc on va l'excuser. Et puis, moi, je suis là.
Oh, Benjamin.
Ah non, c'est pas Benjamin.
Ah non, pardon, excuse-moi. Non, c'est notre cher et incontournable Olivier Nothal.
Ah, voilà, quand même. Alors moi, je suis chroniqueur, paraît-il. Alors je sors une griffe de temps en temps. Parfois, ça rend un peu malade les invités, mais pas toujours. Alors aujourd'hui, on reçoit Alex Larue.
Bonsoir.
Alors Alex Larue, pour ceux qui ne le connaissent pas, est membre du parti Les Républicains, si cela existe encore. Il est conseiller municipal de notre ville.
C'est vrai.
Et aussi élu à la 3e. Alors la 3e, ce n'est pas un truc avec pour faire des t-shirts ou je ne sais pas quoi, ça, c'est la Montpellier Méditerranée Métropole.
C'est vrai aussi.
Alors, toujours dans l'opposition, il souhaiterait peut-être changer un jour de statut. Hein, ça serait bien quand même de ne pas toujours siéger dans l'opposition. Hein.
On y pense.
Voilà. Alors, à la lumière de la récente présidentielle et de la nomination d'un Premier ministre étiqueté LR, du renouvellement, et des changements envisagés dans la classe politique, nous demanderons à cet avocat de défendre son point de vue. En le remerciant surtout d'être venu courageusement, puisque avec l'actualité brûlante, certains, que je ne citerai pas, préfèrent rester couverts. Pas lui. Tiens donc, le président, après avoir fait indirectement exploser le Parti Socialiste, et renvoyer son ex-patron, vous savez, l'ancien Premier ministre, vous vous rappelez de son nom, Manuel Valls. Il l'a renvoyé à la case. « Qui êtes-vous, monsieur ? On ne vous connaît pas en marche. » Voilà qu'il s'attaque à l'autre pan du système gauche-droite, la droite républicaine, pour faire simple. Et dans le collimateur à portée de fusil du chasseur Macron, il n'est pas devenu chef des armées pour rien d'ailleurs. Il a décidé de passer à l'offensive sur plusieurs fronts en même temps. Alors avec le parti Les Républicains, il ne fait pas comme avec le PS. Il a décidé d'aller piocher dans ses rangs son premier ministre. Sacré Emmanuel, un bout en train qui s'ignore. Il ne fait pas forcément rire tout le monde avec cette histoire de débauchage. Même Alain Juppé, un proche du nouveau Premier ministre, était un peu crispé quand on l'a interrogé sur le sujet. Pour le reste, de la troupe des LR, on oscille entre courroux, pragmatisme et peut-être aussi résignation. On demandera tout à l'heure à mon invité ce qu'il en pense. On se croirait, mon cher Jean-Pierre, dans une entreprise quand les chasseurs de tête vont faire leur marché chez les concurrents pour mieux les absorber pour la suite. Donc, on peut dire que la start-up En Marche tente une OPA sur la droite modérée et républicaine. Pour le centre, ce n'est même pas la peine de faire quoi que ce soit, c'est déjà fait. Et depuis longtemps, avec Bayrou. Et mon petit doigt me dit que ça pourrait peut-être le faire aussi avec l'UDI. Peut-être que certains se verraient bien revenir aux manettes comme ministre de quelque chose, mais pas de n'importe quoi quand même. Et si c'était l'un d'entre eux, l'une d'entre elles, qui y allait, je ne serais pas très surpris. Bon, pour revenir au nouveau Premier ministre, c'est aussi un jeune. Enfin, un peu moins jeune que le président. Il ne faudrait pas faire de l'ombre au Benjamin de la République quand même. Hein. Édouard Philippe, né le 28 novembre 1970 à Rouen. Et c'est un homme, donc, d'abord à l'UMP, puis aux Républicains, le LR, les LR, pardon, il est député. Député de la 7e circonscription de la Seine-Maritime. Il est aussi maire, maire du Havre, et président de la, comité, de la communauté de l'agglomération Havraise. Ah, il n'y a pas de métropole encore, hein, on n'est pas comme à Montpellier. Voilà pour le CV. Ah oui, aussi, bien sûr, il est Sciences Po, ENA, un petit passage chez Areva pour le privé, un joli parcours qui l'a amené des jeunesses rocardiennes à, disons, on pense à sa jeunesse donc, à l'âge mûr juppéiste. Voilà pour le CV de notre nouveau Premier ministre. Bon, à part cela, il doit être quand même très, très malin, l'animal, pour avoir réussi à être maire du Havre en étant rouennais. La rivalité entre les deux grandes villes de Seine-Maritime ayant toujours existé. Pendant des lustres, c'était Le Havre, l'ouvrière, avec le Parti communiste dans son bastion, qui s'opposait à Rouen, la bourgeoise, style Le Canuet, un centriste, tiens, déjà un centriste, un signe. Alors, ben voilà. Vous l'avez compris, les cartes sont rebattues. Où faut-il attendre les législatives de tous les dangers pour y voir un peu plus clair ? Je ne suis pas certain, je suis certain d'ailleurs de rien. Et notre invité, s'il a des idées sur ce sujet et d'autres, notamment peut-être de façon plus locale, va nous éclairer. Alors, avec Jean-Pierre, ça se soigne. Je ne sais pas si vous avez trouvé un remède, parce que là, notre Macron, pardon, monsieur le président de la République française, Emmanuel Macron, a trouvé peut-être un moyen de jouer un peu au qui. Hein. Il joue au qui avec tous les partis un peu traditionnels. Donc, vous allez prendre la main et surtout le micro pour commencer à nous éclairer et surtout à poser des questions à notre invité, Alex Larue, qui est républicain, ce qui est intéressant avec un nouveau ministre, Premier ministre de sa formation politique. Jean-Pierre.
Oui, Foubert. Alors avec mon parcours politique et intellectuel, j'étais plutôt en tant que médecin dans cette noble institution, Radiodivergence, pour le traitement de choc. Là, je pense qu'avec ce qui se passe, je vais me remettre à la dissection, vraiment en rentrant dans le détail. Juste une petite anecdote à propos de cette rivalité Le Havre-Rouen.
Oui.
Je rappelle que quelqu'un de relativement célèbre localement était originaire de Midi-Pyrénées, a fait toutes ses études à Toulouse et a été un jour maire de Montpellier. Donc,
mais si vous voulez, Rouen-Le Havre, c'est un petit peu comme Nîmes-Montpellier, surtout au niveau du foot. Bon, enfin bon, on va pas parler de ça. Voilà, c'est ça.
Ouais. Très bien. Oui, alors moi la première question, ou la première analyse qu'on peut faire de ce qui est en train de se passer, effectivement, Olivier l'a bien rappelé, Emmanuel Macron a bénéficié, je dirais, d'un point de vue électoral, d'un espèce de désaveu des appareils politiques tels qu'ils existaient depuis 50 ans, avec la 5e République qui avait été faite pour envisager éventuellement une alternance entre une gauche et une droite dominée par le gaullisme ou les
UMP, les Républicains,
y compris avec le passage de Giscard d'Estaing un peu plus au centre, et une gauche en gros dominée par le Parti Socialiste, constatant que tout ça avait volé en éclats, Emmanuel Macron s'est engouffré dans cette brèche et donc a décidé de recomposer le panorama politique.
Avec beaucoup de chance quand même, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le candidat favori de cette élection présidentielle, normalement, aurait dû être le vôtre chez les Républicains. Mais enfin, bon, c'est une autre histoire.
Je te relaisse. Quelque chose qui me frappe, et on en parlera peut-être tout à l'heure à propos d'élections plus locales, c'est-à-dire législatives, le score que fait Emmanuel Macron n'est pas un blanc-seing De la part de deux Français, deux électeurs sur trois qui sont déplacés. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et on le verra bien dans une ville comme Montpellier, où Emmanuel Macron fait 78% au second tour, mais il ne fait que 27% au premier. Donc, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué qu'on ne l'imagine. Il a réussi une opération très claire, c'est-à-dire qu'il a fait, grâce à son camarade Mélenchon, ils ont siphonné le Parti Socialiste. Donc,
et il reste.
Et en même temps, mis en difficulté le FN. On a vu qu'il y avait, y compris au FN, des failles, des démissions, etc., comme la nièce.
La maréchale.
Mais d'autres, on le voit dans les Pyrénées-Orientales. Il y a un des responsables du Front National qui a démissionné et qui était dans l'équipe de Alliot, etc., sur Perpignan, et qui risque de se présenter d'ailleurs de manière indépendante. Mais on constate ce phénomène-là. Il lui restait une deuxième étape à accomplir, majeure. C'était de démanteler peu à peu les Républicains, et manifestement avec la nomination de ce Premier ministre qui probablement dans la composition du gouvernement ne sera pas seul venant des Républicains. Je pense qu'il y a un certain nombre de députés pour des raisons soit parce qu'ils pensent que c'est le moment de tourner une page, soit parce que par opportunisme éventuellement électoral, comme pour un certain nombre de députés venant du PS, pour les mêmes raisons, pour retrouver leur circonscription éventuellement, je pense que ça va être un sacré coup de balai. C'est un peu les écuries d'Augias. Et donc, je pense qu'il va falloir être très méfiant, ne pas être trop sûr du succès. Je pense qu'il y a une recomposition qui va se faire et qui ne se fera pas simplement avec les
En Marche,
les législatives. Je pense qu'il faudra sans doute un ou deux ans avant que les choses se mettent en place et qu'on voit effectivement des mouvements qui seraient hors de partis politiques. Et donc, avec législatives, on a des électeurs qui ont besoin d'un repère de proximité. C'est toute la différence entre l'élection présidentielle et l'élection législative.
Alors, j'ai juste une question à poser à Alex Larue quand même. Alors, c'est quand même incroyable. Vous perdez les élections avec votre candidat qui n'était peut-être pas le meilleur. Hein. Bon, pour les auditeurs qui ne le savent pas, vous n'avez pas soutenu ce candidat pendant les primaires. Vous étiez, vous, proche de NKM.
Et toujours, d'ailleurs.
Et toujours proche de NKM. Ça, c'est quand même pour qu'on vous situe au niveau politique. Et puis, donc, la question, c'est quand même curieux. Et vous avez un Premier ministre de votre parti. C'est quand même extraordinaire. Comme, je ne sais pas, c'est ce mouvement qui se passe là, c'est quand même extraordinaire. Je voudrais premièrement votre opinion là-dessus, puis après on viendra plus localement avec Jean-Pierre.
Bien sûr. Bonsoir tout d'abord. Merci de m'avoir invité ce soir. Vous voyez, comme vous le disiez tout à l'heure, je
vous êtes courageux.
Non, mais c'est pas que je suis courageux. Moi, j'aime la politique, j'aime la vraie politique, j'aime le dialogue politique. Alors, c'est vrai que je vous cache pas que c'est pas un moment facile pour nous, et notamment sur les lignes, puisque tout le monde navigue un peu à vue. Mais bon, je vais essayer de répondre le plus franchement possible et de façon la plus constructive possible. Donc, j'espère d'abord que le docteur Foubert va pas me disséquer de mon vivant. J'ai entendu qu'on était plutôt sur un exercice de dissection ce soir. Donc, je vais essayer.
Non, il est un peu homéopathe aussi, des fois. Donc, vous inquiétez pas.
D'accord. Moi, je préfère cette option-là. Effectivement, la période est pas facile. On a une espèce de tremblement de terre politique compte tenu de la tradition française, en tout cas 5e République. C'est vrai que pour ma génération, moi je suis élu depuis 2014, c'est vrai que c'est un peu compliqué de commencer en ce moment, mais d'un autre côté c'est quand même très excitant. Parce qu'on voit aussi maintenant qui est-ce qui a un cap, qui est-ce qui a une colonne vertébrale, pour prendre une expression assez usitée en politique. Et donc je trouve que ça va permettre de faire le tri un peu.
Et puis place aux jeunes peut-être.
Vous, oui, alors jeune. Moi, je n'ai pas envie de tomber dans le jeunisme. Vous savez, je trouve que, de toute façon, il y a toujours plus jeune que soi. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus vieux qu'Emmanuel Macron. Je dois avoir 4 ou 5 ans de plus que lui.
Comme le Premier ministre qui a 46 ans.
Alors, je suis plus jeune que le Premier ministre.
Vous voyez, vous êtes entre les deux.
Il ne faut pas oublier que ce sont les gens qui ont 20 ans qui ont de l'avenir.
Mais bien sûr, donc voilà. Donc moi, j'ai des proches autour de moi qui s'engagent en politique, et notamment Sébastien Vallone qui a 25, 26 ans. La nouvelle génération est là. Donc, Que vous répondre ? Alors, c'est vrai qu'on a l'impression, quelque part, qu'Emmanuel Macron fait quelque chose d'assez novateur. Alors, c'est vrai que, bon, sans lui faire injure, Édouard Philippe, au jour d'aujourd'hui, n'est pas la figure la plus emblématique de la droite française. Hein.
Non.
Objectivement. Alors, on verra demain, et c'est ce que vous allez sûrement me répondre, en fonction du casting de droite, si les dégâts collatéraux sont plus importants. Ce que j'ai envie de dire, c'est, bon, voilà, M. Philippe a pris une décision. Je la respecte complètement.
Il dit personnel, d'ailleurs. Hein.
Il dit personnel. Alors, quelques instants après sa nomination, un communiqué de presse signé par une vingtaine de grands maires et de grands...
Il n'est pas tout seul.
Et de grands sénateurs est venu à l'appui de sa démarche. Donc, tout ça a été préparé. D'ailleurs, tout le monde savait, a priori, depuis 8-10 jours, que ce serait M. Philippe le Premier ministre. Écoutez, on va voir. Je pense que moi, je me mettrai dans les pas, et j'allais pas dire dans les bottes, mais dans les pas d'Alain Juppé, oui. Puisque Alain Juppé a dit, bah voilà, c'est un homme de valeur. On va pas contester qu'Édouard Philippe a priori est un bon maire du Havre. Je sais pas si ça a été
un républicain, en tout cas.
Oui, c'est un républicain. Alors pour moi, c'est pas un critère en tant que tel. Non, vous n'êtes pas bon parce que vous êtes républicain et mauvais parce que vous êtes socialiste ou quoi. On verra la politique qui va mener.
Quand Olivier disait un républicain, c'est au sens...
Au sens large
oui,
du terme.
Pas un membre du Parti.
Oui, c'est un peu la difficulté de l'appellation des républicains.
Ça, c'est une belle... excusez-moi, je vais dire un gros mot, une belle connerie quand même, les républicains. Je trouvais vraiment ce mot tout à fait bizarre.
Vous savez, je vais vous dire deux choses. Moi, j'ai commencé ma carrière politique, en tout cas militante, dans un parti qui s'appelait le Parti Républicain dans les années 90, de François Léotard, Alain Madelin, tout ça.
Les quadras de l'époque.
Et les quadras, voilà, la bande à Léo, vous voyez. Donc le jeunisme d'ailleurs, donc date pas de maintenant, et la bande à Léo, je sais pas si vous vous en souvenez.
Très bien, très bien.
C'est fait désinguer par Jacques Chirac, toute la bande Barnier, Vasseur, machin. Donc le jeunisme, c'est pas une nouveauté. Ce qui n'est pas une nouveauté non plus, c'est l'ouverture à l'outrance. Et rappelez-vous la déclaration de Jean-François Copé, hein, qui est pas loin d'être mon idole, mais il avait dit à propos de l'ouverture sarkozyste en 2007, l'ouverture, d'accord, mais jusqu'au sarkozyste. Rappelez-vous, la venue de Kouchner, notamment, des gens comme ça. Donc on est dans un mouvement, finalement, de déstabilisation politique. Tout à l'heure, vous disiez, ben voilà, les partis politiques n'existent plus, machin. Ce que je constate, c'est que la première décision d'Emmanuel Macron, qui ne me surprend pas, c'est de transformer son mouvement citoyen en parti politique.
La République.
Et voilà, dans une La République en marche, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, vous voyez bien que finalement, il y a une espèce de logique. Et on peut difficilement faire comme ça. Il faut organiser les choses. Alors, une fois que vous allez avoir un parti politique, vous allez avoir des commissions nationales d'investiture. On l'a vu avec les couacs, avec Modem. On va avoir une hiérarchie. Et puis finalement, vous savez, comme j'ai coutume de dire, quand on met trois humains dans la même pièce, ben, y a des alliances qui se nouent et qui se dénouent. C'est la nature humaine. La politique, c'est pas autre chose que la vie humaine avec une loupe pointée dessus et des échéances très régulières.
On va donner la parole à Jean-Pierre. Peut-être que tu vas poser des questions à M. Larue, qui est venu nous voir.
Tout à fait mon intention.
Ça tombe bien, je suis là pour...
Voilà, parce que sur peut-être plus localement, je ne sais pas, comme tu veux. Comme tu veux.
Hein, alors, moi, j'ai une question préalable. Comme, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, Emmanuel Macron a profité d'une espèce de vide, je dirais, il n'a pas intérêt à se louper.
Il porte une responsabilité gigantesque. Ça, c'est sûr. Et il ne faut pas qu'il passe à côté de ce qu'il a promis, puisque derrière, la sanction sera claire et précise. Et d'ailleurs, moi, je me suis battu entre les deux tours pour que ça n'arrive pas tout de suite. Ça sera le Front National. D'accord ? Donc maintenant, M. Macron, quelque part pour lui et un peu pour nous aussi, c'est un peu aussi le sens des propos d'Alain Juppé, il est condamné à réussir. D'accord ? Donc maintenant, moi, je l'attends là-dessus, mais sans faire du local et être monomaniaque. J'ai vu ce que donnait la politique autrement à Montpellier. On le voit au moment des législatives. Tout à l'heure, on en parlera avec des situations de cumul. Inacceptable intellectuellement. Et donc, moi, je me méfie de ce genre de mouvement. Après, effectivement, s'il devait avoir une majorité, il ne faudra pas faire d'obstruction, bien sûr, systématique. Mais l'opposition aussi a tout son intérêt. Et ce que je regrette, moi, dans cette séquence politique, donc les quatre tours, c'est les deux premiers tours présidentiels et les deux premiers tours législatives, c'est que pour l'instant, on a été privé de débats programmatiques.
Ça, c'est terrible quand même, parce que là, je rejoins votre point de vue à ce niveau-là. Le débat a été très pauvre. Débat a été surtout, des histoires d'hommes, des machins. Bon, hélas, c'est pas nous qui l'avons voulu, nous, les journalistes, forcément.
Ah, mais moi, je vous jette pas la pierre.
Mais le débat politique a été un peu occulté au profit d'une pipolisation, de ce que vous voulez bien. Donc là, ce que vous allez de vouloir nous dire, c'est que les législatives, il faudrait peut-être qu'on parle de programme.
Mais moi, je crois que ça, il va y avoir un problème.
Jean-Pierre Foucault.
Ce matin, la cellule de communication de l'Élysée a envoyé un truc pour expliquer que le costume que portait Emmanuel Macron
était à 450 euros.
Coûtait 450 euros, acheté dans un...
Il y avait même l'adresse. J'ai vu passer, c'est Laurent Saïm.
On s'en fout.
Et que Brigitte portait une
prêtée.
Par Vuitton.
Prêté, voilà, par Vuitton sur mesure. Et qu'elle devait rendre immédiatement.
Je me dis,
nous sommes vraiment rentrés dans une déstabilisation du monde politique. Et moi, je trouve qu'il y a une personne, même si ça ne correspond pas forcément à ce à quoi je crois, que je soutiens, mais je trouve que la position de Barouin, qui est de dire « ne nous laissons pas démonter », toute personne qui ne suivra pas les préceptes des Républicains et qui voudra éventuellement tendre la main à Emmanuel Macron sera dégagée. Alors les gens disent « ouais, il est sectaire », mais moi je le comprends. Objectivement, s'il accepte ça, il n'y a plus de parti les Républicains.
Expliquez-nous peut-être pour les auditeurs, tout le monde ne sait pas peut-être, qui est Monsieur Barouin, à part qu'il soit maire de Troyes.
François Barouin, c'est un homme politique de droite qui a quand même un parcours assez brillant. Alors effectivement, il est venu très vite, très jeune à la politique parce qu'il
avait une
ascendance assez prestigieuse dans
avec son père, qui a été le grand maître du Grand Orient de France.
C'est effectivement une vérité, on va dire, incontestable. Il a été tout de suite bombardé comme porte-parole de mémoire de Jacques Chirac en 94, et il a eu effectivement un parcours doré puisque Jacques Chirac et lapsus François Mitterrand l'ont quand même bien aidé, puisque c'est quelqu'un de valeur. Alors, pour revenir...
Actuellement.
Et je le rejoins. Alors, je vais faire juste un petit retour en arrière, moi, sur la présidentielle. Sur François Fillon, moi, j'ai eu deux temps. J'ai eu un premier temps à la sortie des primaires, comme tout le monde, en disant cette personne pour laquelle je n'ai pas voté ni au premier tour, ni au deuxième tour. Moi, j'ai voté NKM et Juppé. Il est le candidat légitime. Quand j'ai signé le petit papier, comme tout le monde, je me suis engagé à soutenir le candidat qui sortira des primaires. Contrairement à Manuel Valls, je m'y suis tenu.
C'est la démocratie, ça, non ?
Tout à fait. Sauf qu'au moment des affaires, moi, j'ai cessé de le soutenir pour une simple et bonne raison. Il avait dit « si je suis mis en examen, je retire ma candidature ». Et le jour où il a décidé de maintenir sa candidature, je dis « moi, je ne viens pas sur le programme, je viens juste sur cette déclaration. Mmh. » Et le problème, il faut sacraliser, sanctuariser la parole politique en France. Mmh. Et même si, par extraordinaire, il avait été élu, il n'aurait jamais pu, je suis désolé de le dire, gouverner ce pays. Donc moi, j'avais fait partie de ceux, et dans l'Hérault, je crois que j'étais le seul à militer pour son retrait. Après le Trocadéro, je ne suis pas venu...
Avec Monsieur Grand, peut-être, non ?
C'est vrai qu'il y a Jean-Pierre Grand. Oui. Après le Trocadéro, je ne suis pas revenu en arrière en disant finalement, ce type est génial. J'ai refait le même communiqué en disant, écoutez, voilà ce que j'ai dit il y a une semaine, je m'y tiens. Voilà. Donc je suis pas, on ne peut pas me suspecter d'être un peu marabouté par le gourou Fillon. La ligne sens commun, j'y adhère pas du tout.
Alors pour ceux qui ne savent pas aussi, sens commun, c'est une ligne, disons, très, très catholique.
Traditionnaliste.
Traditionnaliste, presque intégriste.
Alors voilà, moi je suis catholique, il n'y a rien de...
Ah, vous avez le droit.
Non, on
est en laïcité.
Et je vais vous faire une petite anecdote. Samedi soir, on avait un meeting pour nos candidats aux législatives. Il y a une des représentantes de Famille pour tous qui est venue me voir, qui me dit « Monsieur Larue, on entend que vous avez des ambitions politiques. Donnez-nous votre position sur le mariage homosexuel, sur la GPA, machin, tout ça. » J'ai dit « Écoutez, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Moi, le mariage homosexuel, je n'ai aucun problème avec. À partir du moment où deux adultes qui s'aiment veulent se marier, c'est leur problème. » Donc, on ne peut pas me suspecter de manquer de courage politique. En tout cas, je suis franc. Mais là où je rejoins François Barouin, c'est qu'il faut absolument, sur cette législative, avoir un débat programme contre programme. Puisqu'on nous avait dit, les présidentielles, il faut voter pour Macron, puisque Fillon a menti. OK, bon, ça, voilà, mais on n'a pas parlé de programme. Et maintenant, il nous dit, il faut absolument, puisque c'est la logique de la Ve République, de donner une majorité forte au président, et sans parler de programme.
D'accord, très bien. Si vous voulez, un petit arrêt, puis après on revient avec vous. Allez, ça va. Alors, le temps d'une respiration dans ce monde politique fait de brutes, pas forcément de brutes, aussi de gens qui essayent de rassembler les gens. On va demander à Jean-Pierre peut-être une petite lecture à conseiller,
oui,
pas
alors,
qu'à notre invité, aux auditeurs.
Je ne dis pas que je me suis laissé influencer par notre cher nouveau président, mais dans une interview qu'il a donnée il y a quelques jours, une journaliste lui a dit « Quel est le livre que vous êtes en train de lire ?» Et donc, je vais, ça m'a rappelé mes chères études il y a quelques décennies, et il disait qu'il
n'exagérez était... N'exagérez pas, Jean-Pierre, n'exagérez pas.
Non, mais ça fera un pont avec, disons, ce que j'ai envie d'aborder dans un second temps. D'accord. Avec notre invité. Parce qu'on risque de se retrouver dans cette situation si jamais notre président n'avait pas de majorité, c'est-à-dire un système très quatrième république. Et donc ce que disait Emmanuel...
Alors qu'est-ce qu'il lit, notre président ?
Alors Macron lit un livre que je conseille à tout le monde, les gens qui s'intéressent à l'histoire et à la politique, c'est le livre de Georges Attelger qui s'appelle « Histoire de la quatrième république » chez Fayard, qui est une bible, et dont j'ai découvert, parce que moi j'avais acheté quand j'étais étudiant les deux tomes qui couvraient la quatrième république, et j'ai vu en consultant Internet qu'il y avait un sixième tome qui venait de paraître, et elle a étendu donc la dérive.
À nos jours.
Et, oui, en gros, c'est ça. Et donc, je trouve que son analyse, c'est une journaliste de formation, et je trouve que ce livre sur la 4e République, qui est complètement méconnu de 80% des Français, simplement parce qu'ils sont nés après. Hein, peut-être pas 80%, mais...
Oh, il y en a beaucoup quand même. Hein.
Ah ben, depuis 1958, je pense qu'il doit y avoir au moins les deux tiers de la population française qui sont nés après, après 58.
Oui, bah donc la 4e République, en effet, c'est peut-être... on espère que ce n'est pas forcément un clin d'œil général. C'est-à-dire qu'on y retourne à la 4e
C'est-à-dire, et c'est la... Donc je conseille, hein, je rappelle le titre, ça s'appelle « Histoire de la 4e République chez Fayard » de Georgette Elger.
Alors, pas de pensée de Benjamin Théoul qui nous a fait faux bond en l'excuse. Allez. Alors, ben écoutez, Alex, si vous voulez bien, Alex Larue, on va prendre le débat à la passe de Benjamin. On n'aura peut-être pas la pertinence de ces questions, mais on va essayer de se débrouiller. Jean-Pierre Foubert et donc Olivier Nostre.
C'est lui qui s'est défilé finalement.
Je ne sais pas, il n'a pas voulu vous voir, peut-être.
Peut-être il a eu peur. Ouais. Non. Pour rebondir donc sur cette histoire de la 4e République, ça me fait penser au fait que nous allons avoir des législatives et que peut-être le président, ou en tout cas son premier ministre, hein, puisque normalement le premier ministre est censé animer le débat des législatives, peut-être n'aura-t-il pas de majorité absolue, et donc n'ayant pas de majorité absolue, c'est possible, mais n'ayant pas de majorité absolue, ça veut dire que les points importants, régaliens, vont donner lieu à une négociation. Ou bien, comme l'a fait Rocard à l'époque, un 49-3, mais maintenant, la loi interdit d'avoir plus d'un 49-3 par session. Donc c'est un problème. Avant, on pouvait y aller...
Reste les ordonnances.
À l'envi, et il y a les ordonnances. Mais les ordonnances...
Elles doivent être autorisées aussi, de mémoire aussi.
Oui, absolument. Hein. On peut pas...
Il y a un cadre de mémoire.
Il y a pas de...
pas constitutionnaliste, mais je crois qu'il y a...
Non, il n'y a pas de diktat possible de la part du président.
C'est heureux.
Donc, quelle vision vous avez effectivement de ce qui risque de se passer après les législatives ?
Écoutez, moi, je vais rebondir déjà sur votre lecture du moment, parce que moi, je suis en train de lire une biographie de Robespierre.
Ah oui.
Donc, il y a quelques têtes qui sont tombées.
Ah, il y en a quelques-unes.
Oui, la sienne aussi.
Voilà. Bon, voilà. Donc, il faut voir. Donc, c'était juste un clin d'œil. Qu'est-ce qui va se passer ? Honnêtement, j'en sais absolument rien. Je pense que.
Bah nous non plus, vous rassurez.
Je ne vais pas vous mentir, qui avait la prétention il y a 6 mois de dire voilà, il va se passer ça, à chaque fois il y a un nouvel événement.
Un jeu de qui un peu.
Voilà, la seule chose qui finalement n'est pas surprenante, c'est la nomination d'Édouard Philippe, puisqu'elle est annoncée depuis une semaine. Mais sinon, sur le reste, qu'est-ce qui va se passer ? On va voir, j'insiste, mais je pense que ce qui va se passer demain va être assez intéressant, parce que, outre Le Drian à la Défense et des choses comme ça qui sont assez consensuelles finalement. On peut avoir 2-3 surprises et c'est peut-être ça qui va déstabiliser.
Et peut-être des gens de votre formation politique.
Ah ben probablement. Alors je suis pas du tout dans le secret des dieux.
Non,
mais
non plus.
Mais probablement. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, Édouard Philippe n'est pas venu seul, sinon il serait pas venu. La tribune à laquelle je faisais référence annonce d'autres choses demain. On verra demain ce qui va se passer. Mais à minima, moi, ce que je demande aux hommes politiques... Alors moi, je ne suis pas candidat aux législatives.
Ah, vous pouvez parler vraiment librement.
Oui, et vous savez, moi, je suis élu municipal et métropolitain. métropolitain, ce qui est finalement le même mandat. Ouais. Et moi, je suis absolument contre le cumul de mandats. Donc, j'ai refusé de participer au régional, au départemental et au législatif pour me concentrer sur la vie municipale.
Et il y a du boulot, paraît-il.
Il y a du boulot, on en parlera si vous le souhaitez tout à l'heure, mais la priorité, c'est quand même ce que vous...
Législatif,
quoi, en tout cas. C'est le sujet que vous m'avez proposé. Et donc, sur les législatives, la seule chose que je demande, c'est programme contre programme. Et là, on verra bien, et je suis très, très curieux de voir un débat, parce qu'il faudra le faire, entre le chef de la majorité potentielle souhaitée, M. Édouard Philippe, contre le chef de la majorité rêvée à droite, François Baroin.
Ah, ça serait quand même pas mal.
Mais je pense que l'exercice démocratique tel qu'on l'a voulu dans cette élection, et c'est vrai que c'était la première fois où on a eu un débat, je ne sais pas combien ils étaient au début, ils étaient 10 ou 11, c'était un peu cacophonique, mais en tout cas ça a eu le mérite d'exister. Alors il y a eu des grands moments avec la salle et Poutou, mais au moins il y a eu un échange. Et là, moi je rêve d'un tête-à-tête entre Baroin et Philippe qui permette à tous les Français, mais aussi aux électeurs du centre et de la droite, de juger sur pièce.
Et Cambadélis aussi, bien sûr.
Non, mais voilà.
Enfin,
mais...
Si ça existe encore, le PS, je ne sais pas.
Non, mais je suis très sérieux quand je dis ça. Je pense que c'est très, très important.
Oui, Emmanuel Macron a dit...
Jean-Pierre Faubert.
Macron a dit qu'il était élu pour appliquer son programme et qu'il n'y dérogerait pas. J'ai vu qu'il y a deux jours ou trois jours, les Républicains ont voté à l'unanimité un programme.
Un nouveau programme.
Hein, oui. Un nouveau programme, etc. Mais moi, la crainte que j'ai, c'est qu'en fait, le seul véritable débat des législatives, ça sera de dire, est-ce qu'on permet à Emmanuel Macron d'avoir une majorité ou pas ?
Ben, c'est exactement ce que je vous disais. Moi, c'est ma plus grande crainte. Mmh.
C'est-à-dire que le débat n'existe pas.
On va encore chointer. Excusez-moi, je n'ai pas zappé. Je n'ai pas d'expression...
À la radio, on chante souvent. Vous savez, on fait passer les curseurs.
Ah ben voilà, on va chanter le débat.
On a Bruno là derrière la vitre, il fait souvent
et
ça.
Et finalement, c'est un débat. Est-ce que pour ou contre Macron ? Mais finalement, ce débat, on l'a presque eu. On l'a pas eu au deuxième tour. On l'a eu au premier tour. Ce que je veux dire aussi, tout à l'heure, vous parliez un peu de sciences politiques.
Oui.
Emmanuel Macron a été élu, et il ne faut pas revenir là-dessus, hein, contrairement à ce qu'à un moment a laissé entendre
Jean-Luc Mélenchon.
En politique comme en vie, en fait, il y a deux choses qui sont très importantes. Il faut avoir une stratégie et il faut avoir de la chance. Il faut savoir, même une troisième chose, saisir le moment. Mmh. Il a eu un alignement de planètes.
C'est ce qu'il a dit lui-même, d'ailleurs.
Merveilleux. Il y a eu une grosse erreur de la part des partis français. Et moi, je l'ai dénoncé en mon temps, c'est l'organisation des primaires. Pourquoi ? On avait fantasmé un peu les primaires sur le modèle américain. Sauf que ce qu'on a oublié, c'est qu'aux États-Unis, il y a un bipartisme.
Oui.
Donc finalement... Quelle que soit la qualité des primaires, ce sera un des deux partis qui
démocrates ou républicains qui seront au deuxième.
Qui sortiront. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on nous a dit, mais François Hollande a été élu la dernière fois grâce aux primaires socialistes. Je suis désolé. On aurait mis quasiment n'importe qui face à Nicolas Sarkozy la dernière fois. Rappelez-vous du tout sauf Sarkozy.
Oui, tout sauf Sarkozy.
La personne aurait été élue. D'accord ? Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, à mon sens, c'est le fait que les primaires... portant en leur sein un drame absolu, c'est que vous êtes obligé, pour gagner dans votre camp, de parler à la frange la plus frustrée, la plus remontée de votre camp. Parce que pourquoi ? Parce que quand vous parlez aux gens remontés, aux gens frustrés, vous savez quoi ? Ils se mobilisent.
Voilà, c'est ce qui est passé au Parti Socialiste.
Et c'est ce qui s'est passé chez nous aussi, sens commun. Je veux dire, mais attendez-moi, à un moment, on m'a dit... on m'a traité, moi, de gaucho, excusez-moi, c'est pas...
Vous rendez compte, monsieur Alex Larue, membre des Républicains et gauchiste ? Ça, vous ne le savez
pas. Oui, mais
on est toujours le gauchiste de quelqu'un.
Ah bah, moi, j'espère être le gauchiste du Front National de vous à moi.
Bah, c'est déjà quelque chose.
Et du coup, Macron, monsieur le président de la République, excusez-moi, a eu l'intelligence de saisir le momentum. Et vous savez, moi, j'ai le juste point commun que j'ai avec lui, mais à ma toute petite échelle, c'est que moi aussi, je fais des fusions-acquisitions en tant qu'avocat. Je n'ai pas dans les grandes opérations comme lui. Mais ce qui fait la force de mes plus grands clients et ceux qui ont le plus de succès, c'est qu'ils savent le moment où il faut y aller. Il détecte l'alignement de planète. Voilà. Et lui, il a vu l'affaissement de François Hollande. Il a compris que les primaires, le grand écart serait impossible à tenir derrière. Et il a foncé.
Il a vu Hamon comme candidat du Parti Socialiste. Il a vu Fillon, candidat des Républicains. Tout ça, ça fait beaucoup de choses. C'est l'alignement des planètes.
Et l'alignement des planètes. Et pour faire un petit parallèle local, et encore une fois, j'ai passé pour un monomaniaque, mais la victoire de Philippe Sorel à Montpellier ne s'explique que pas un alignement de planète.
Ah oui, ça, on l'a vécu il y a quelque temps.
Dans je parle au docteur Foubert qui est devant moi. On a Jean-Pierre Moore qui au départ, était une bulle absolue. Et qui...
Il a gagné.
Et il a gagné, il n'a pas fait campagne, rappelez-vous, les tracts en noir et blanc, les bras croisés. Jacques Domergue, moi j'ai participé à sa campagne, donc j'assume tout, mais qui, avec la greffe, n'a jamais pris à Montpellier avec le centre et la droite.
Et c'est pas nouveau.
Et c'est pas nouveau, ça, on verra à l'avenir. Ouais. J'espère que ça changera un jour. Mais tout ça pour dire que Sorel a compris qu'il y avait un espace. Il a eu l'intelligence politique, je dis bien l'intelligence politique, de s'y engouffrer. Voilà. Pour moi, le parallèle entre les deux s'arrête là. Et tout à l'heure, Dr Foubert faisait référence au score de Macron à Montpellier. Je pense qu'il est plutôt 24-25%. Ouais. Mais peu importe. Mais à mon sens, je pense qu'il paye Macron indirectement l'absence de service après-vente de Philippe Sorel depuis qu'il est élu, parce que la politique autrement, on n'a pas vu de construction réelle dans la ville. Et les gens, moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, alors peut-être pour me faire plaisir, mais si Macron c'est Sorel, on préfère aller chez Mélenchon, au moins on va rigoler quoi.
C'est d'ailleurs en partie ce qui s'est passé, parce que Mélenchon sort à 31%.
Mais bien sûr.
Et si on prend la deuxième circonscription qui est strictement intramuros, c'est 33,5%. Ce sur quoi je doute qu'on les retrouve au niveau des législatives.
Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, quelle est la première déclaration politique de Philippe Sorel après le premier tour ? Moi, je suis le vrai insoumis. Voilà. Donc, voilà. Avant, il était en marche 3 semaines avant. Donc voilà. Bon, enfin bref. Donc tout ça pour dire que ayons un débat. J'espère qu'il y aura peut-être même des débats entre les candidats. Alors,
on essaiera peut-être d'organiser quelque chose avant les. Entre les candidats. On en connaît déjà quelques-uns maintenant, ils sont tous là.
Bon, globalement, le casting, à part une ou deux circonscriptions pour En Marche, le casting est final. Il y a beaucoup de dissidences à droite comme à gauche, mais globalement, on voit qui sera là.
Oui, juste un commentaire sur l'élection de Philippe Sorel au niveau des municipales. Mmh. Il ne faut pas oublier qu'il a été élu dans une quadrangulaire au second tour.
Ah, mais ça, je suis d'accord.
Ce qui. le véritable problème qui va se poser, et notamment dans le Sud, c'est le fait que, contrairement à ce que les gens croient, là, avec cette fameuse barre fatidique des 12,5%, le phénomène abstentionniste qui favorisait le Front National, c'est le contraire. Mmh. C'est-à-dire que
Des duels.
Si on a des duels, le Front National est battu.
Bien sûr, j'espère.
Par réflexe républicain. Si on a des triangulaires, le Front National peut gagner à 37-38%.
Il y aura peu de triangulaires, parce que je suis d'accord avec vous, il y aura de l'abstention. Et il y a une telle dispersion des candidatures que les 12,5% des inscrits, pas des exprimés, sont quand même très difficiles. Et on estime, alors moi j'ai des copains qui font des calculs politiques à longueur de journée, mais qui nous disent que pour être qualifié, il faut être autour de 18-20.
Absolument.
Et on verra.
C'est pas simple, c'est pas simple. En effet, pour un premier tour, 18-20% au premier tour, c'est pas simple.
Voilà, je rebondis, j'arrêterai là sur Philippe Sorel.
Oh, peut-être on en reparlera
tout à l'heure. Non, mais notre liste au municipal, au premier tour, nous n'avions que 260 voix de retard sur Philippe Sorel, alors qu'il y avait une liste UDI.
Et oui, tout à fait.
Qui a fait 4,5.
Oui.
Qui a fait genre 3 ou 4 000 voix. Donc finalement, vous vous rendez compte que tout ça tient un peu de choses.
Eh bien, on pourrait dire même pour la présidentielle Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, il retire quand même à Fillon au moins 2 ou 3%.
C'est vrai.
Alors, donc à ce moment-là, Fillon, il fait combien
Il est devant Marine Le Pen. Alors vous avez un duel Macron-Fillon. Bien malin celui. Alors, a priori, on vous dit que ça aurait été Macron.
Ouais.
Mais honnêtement, j'en sais rien. Je peux pas vous mentir.
Donc la candidature Dupont-Aignan est quand même tout à fait dommageable pour votre camp, les Républicains. Maintenant, il a tellement pris le parti du Front National quoi.
Alors vous avez vu, je sais pas, la nouvelle du jour, c'est qu'il a un candidat Front National face à lui dans sa circonscription.
Il a présenté des candidats debout la France partout.
Et donc lui, il a un front en face et leur accord politique est rompu.
Mais ils ne sont pas gentils au Front National quand même. Ils pourraient se retirer.
Là, vous prêchez un convaincu.
Comme dirait Valls à propos de Macron.
Oui, mais par contre, Macron ne présente pas de candidat contre Valls dans sa circonscription.
Mais ça, c'est pareil.
Le commentaire de Valls.
Moi, je me suis accroché avec des amis macronistes sur ça. Je trouve que, honnêtement, ça fait tambouille. Soit vous le prenez dans votre majorité clairement en disant « t'es en marche ». Soit vous lui mettez un candidat en face. Je trouve qu'honnêtement, je n'ai pas de leçon à donner à Emmanuel Macron, loin de là, mais je trouve que ça fait un peu tambouille. Et on retombe sur la quatrième.
La quatrième.
Est-ce qu'on n'est pas en train, peut-être on viendra un petit peu plus sur le niveau local, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister finalement à ce que j'appellerais une américanisation de la vie politique ? J'explique.
Déjà, dans le second tour, j'étais frappé. Je trouvais que le positionnement dans le fameux débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron me faisait penser, d'une part, à Marine Le Pen qui se revendiquait candidate du peuple très trumpiste
ouais.
Et remettant Emmanuel Macron avec la finance, etc., un petit peu comme Hillary Clinton avait été accusée d'être la féale de Wall Street. Est-ce que ce que Macron est en train de faire, ça n'est pas la création d'une espèce de parti démocrate à l'américaine,
à la JFK,
en repoussant, en disant à terme je vais finir de tuer mon prochain adversaire, sera les mélenchonistes, etc., tout ça va s'étioler, et j'aurai un bloc de droite qui ira de Marine Le Pen ou les identitaires jusque, comme aux États-Unis d'ailleurs, le Parti républicain va des néo-nazis jusque à des gens qui peuvent être d'ailleurs très démocrates dans leur positionnement,
bien sûr, des amis américains qui sont républicains, qui sont
absolument
très démocrates
et tout à fait fréquentables,
et avec des passages de l'un à l'autre d'ailleurs assez amusants, parce que je me souviens que Bloomberg, qui était maire de New York, il a été élu comme démocrate, puis il est devenu républicain en cours de mandat parce qu'il a besoin d'avoir un gouverneur à sa botte, puis il est redevenu démocrate à la fin de sa carrière.
Mais la question, Jean-Pierre, donc vous voulez poser...
Donc est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une espèce d'américanisation de la vie, et est-ce que ce qui permettrait de réintroduire un bipartisme, mais pas sur les bases de la 5e
République ? Alors justement, là, vous me coupez un peu l'herbe sous le pied. C'est vrai que si l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est celui-ci, je pense qu'il se trompe lourdement, puisque... qu'on le veuille ou non, on est dans un pays qui est quand même assez latin, avec une capacité à transgresser très importante. Et je pense que les Français ne se contenteront pas du bipartisme maintenant. C'est fini.
Ce n'est
pas la mort des partis, je pense. C'est la mort du bipartisme. Encore une fois, Emmanuel Macron, tout de suite, sa première décision, c'est de créer un parti. Donc, si c'est ça son objectif, je pense qu'il se trompe lourdement et ça ne marchera pas. Et je trouve que c'est très dangereux pour la démocratie. Parce que moi, si à partir du 19 juin, on me dit « Monsieur Larue, vous avez le choix entre moi » ou le Front National, vous savez ce que je vais faire, moi je vais aller à la pêche et je vais m'occuper de ma famille. Il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Et les gens de bonne volonté qui vont faire ça, finalement, en partant, vont laisser le champ libre au Front National, parce qu'à un moment, il y aura une déception, qu'on le veuille ou non, sur Emmanuel Macron, parce que c'est la loi du genre. Je ne vous dis pas qu'il n'est pas de bonne volonté, tout ça, mais sur certains sujets, il va décevoir. Et forcément, si Emmanuel Macron veut tuer tous les autres partis, il aura le Front National face à lui très fort, et on aura le Front National à la présidence de la République en 2022.
D'accord.
Oui, après, je peux me tromper, je ne suis pas politologue, mais...
Marion Maréchal étant retiré,
En Côte d'Ivoire.
Je ne sais pas qui c'est que vont trouver pour présenter à cette prochaine présidentielle.
Elle reviendra, vous verrez.
Oui, elle reviendra.
Oui, tout à fait.
Oui. Alors donc, Jean-Pierre, c'est...
Oui, alors
américanisation aussi, peut-être, dans la façon de présenter les choses. Écoutez, moi, personnellement, quand j'ai vu ce que j'ai vu sur les écrans de télévision, j'ai vraiment eu l'impression d'être aux États-Unis d'Amérique plutôt que dans notre République française. Dans les images, le choix des images, c'était très américanisé, cette intronisation d'Emmanuel Macron.
Je sais pas. Je vous coupe, je suis très bavard. Mais
heureusement, parce que vous êtes là pour parler.
Remarquez, il y a toujours une mise en scène présidentielle. Et finalement, hier, le cérémonial qu'on nous a matraqué, c'est pas autre chose que faisait De Gaulle à un moment. Et ce qu'ont fait ses successeurs, Mitterrand.
Non, je suis pas d'accord.
Non, il n'y a peut-être pas la famille.
Pas la famille, les petits-enfants.
Sarkozy l'avait fait. Parce que
vous parliez de De Gaulle.
Mais sur le côté, je suis un président jupitérien. Tout le monde glose depuis 2-3 jours sur ce truc. Effectivement, il a décidé de mettre le président au-dessus de tout. Le Louvre, le soir du deuxième tour, c'est ça aussi. Avec la pyramide, tout ça, il y a les messages subliminaux. Donc je pense que le marketing politique a toujours existé. Il est de plus ou moins exacerbé. Oui. Sauf que là, on s'en rend plus compte parce qu'on a les réseaux sociaux, quelque part, et les médias, bien sûr, qui décryptent ces choses-là. Mais cette façon, alors les moyens sont un peu différents, mais à mon sens, ça a toujours existé.
Enfin, plus ou moins quand même. Je reviens à De Gaulle. À part Tante Yvonne, dans un coin tout juste qu'on voyait à peine, on ne voyait pas la famille De Gaulle.
Rappelez-vous le couronnement de Napoléon. Il y avait la famille autour.
Non.
Absolument.
Si vous avez le tableau en tête comme moi.
Oui. Bon, alors je rends la parole à Jean-Pierre Faubert pour revenir à peut-être d'autres questions.
Un petit clin d'œil sur le positionnement et le fait qu'il y ait pu y avoir dans d'autres circonstances des candidats UDI. Là, j'ai vu que sur la première circonscription de l'Hérault, l'UDI avait été parfaitement recyclé puisque le candidat Joseph Francis, celui qui aurait pu vous faire perdre, en tout cas, en partie, les élections municipales, avec 4,8%. Il est rentré dans le rang et donc sera le candidat adoubé par le Parti républicain et l'UDI sur la première circonscription, même si ça se passe de manière un petit peu compliquée, si j'ai bien compris, mais avec d'autres candidatures un peu.
Oui, mais alors il y a un candidat qui s'est retiré, hein, Éric Chavroche s'est retiré avant-hier et il soutient Joseph Francis. Alors juste une petite parenthèse là-dessus, parce que j'ai vécu moi les municipales, j'étais troisième sur la liste de Jacques Domergue, et c'est moi qui étais en charge des discussions avec l'UDI et Joseph Francis en particulier. Donc, et je me rappelle même d'un dîner, pour tout vous dire, quelques jours avant la date limite de dépôt des listes, où Joseph Francis a dit à Jacques Domergue « Je suis prêt à venir sur ta liste » et il demandait la 7e place. Il ne demandait pas la 3e ni la 5e. Jacques Domergue lui a dit, et il y avait 5 ou 6 témoins à table, et je suis prêt à redire ça devant lui, « Je ne veux pas que tu viennes sur ma liste puisque tu vas nous faire perdre parce que tu as une image un peu sulfureuse. » Et ce soir-là, Joseph Francis a acté du désaccord et a déposé sa candidature. Moi, je m'étais battu à l'époque contre cette dissidence qui a été, vous adorez la science politique locale comme moi, suscitée intelligemment par Philippe Sorel et tous les gens qui gravitaient autour de Philippe Sorel à l'époque, qui, vous remarquerez maintenant, ne sont plus là. Je parle des Boras, des Scheur, des, hein, j'en passe et des meilleurs, je vais pas aller dans les détails. Et ça a été un vaisseau envoyé pour plomber Jacques Domergue et sa liste en disant « Il ne faut surtout pas que tu prennes Joseph Francis, sinon tu vas perdre. » Comme ça, on a créé une division à droite et Philippe Sorel a pu préempter le centre-droit et le centre-gauche. Donc, ça a été très, très bien joué. Voilà ma réponse.
J'espère que pour les prochaines municipales, vous allez être plus cohérent.
Alors, écoutez, ça ne dépend pas de moi, mais lui, encore samedi, a déclaré que l'UDI serait à mes côtés pour les prochaines élections.
Bon,
on verra effectivement.
Oui, d'autant plus qu'il n'est pas impossible qu'avec le futur gouvernement de M. Philippe, l'UDI éclate lui aussi.
Ah, c'est possible.
C'est tout à fait possible.
Non, bien sûr.
On retrouve des clivages entre.
Oui, alors après, il y a toujours les volontés de monter des listes. Vous savez, notamment au niveau municipal, c'est quand même un exercice assez lourd quand même. Hein.
Absolument.
Vous le savez.
Absolument.
Hein.
C'est Jean-Pierre Foubert.
Oui, donc vous avez des candidats dans les 9 circonscriptions de l'Hérault.
Oui.
Hein, et donc dans les 5 circonscriptions, disons, touchant à Montpellier, quelle vision, quelle analyse vous faites de la situation? Parce que je vois une multiplication des candidatures à gauche, pas vraiment à droite, ça reste encore un peu flou, même s'il y a des
dissidents, mais ça a toujours existé, les dissidents.
Oui, oui. Mais des dissidents soutenus par tel ou tel maire, etc., qui peuvent être influents. Hein,
Oui, et puis il y a des règlements de compte, vous le savez.
À l'est de Montpellier, par exemple, à l'est immédiat, au sud de la première circonscription.
Oui, bien sûr.
Etc, etc. Donc,
tout ça.
Là, c'est pour les gens extrêmement avisés. Mais c'est vrai que quand je vois le nombre de candidatures qui risquent d'émerger à gauche, émerger sans mauvais jeu de mots, hein, je parle pas du
mouvement des radicaux de gauche, on a compris.
Donc, qui risquent d'émerger à gauche, je sais que, par exemple, il y a des fractures entre les mélenchonistes, hein, le Front de Gauche
le Parti communiste.
Et le PC. Il y aura probablement des candidatures dissidentes écologistes. Le PS qui va présenter des candidatures. Il y aura des macronistes plutôt classés à gauche qui vont présenter des candidatures, etc., etc. Donc j'ai peur qu'il y ait une dilution. Enfin, j'ai peur. Je pense qu'il risque d'avoir une dilution des voix de gauche. Est-ce que vous pensez que
c'est peut-être bien pour les Républicains.
Oui. Est-ce que ça veut dire que même si le matelas localement est pas forcément flamboyant pour les Républicains, est-ce que vous pensez pas que l'opération Macron risque de déstabiliser ça et de favoriser un Front National qui est quand même intéressant. Hein. Juste pour un petit rappel. Montpellier, européenne,
en
10 000 voix pour le Front National. Un an après, élection municipale, il passe à 13 000 voix. Un an après, élection départementale, il passe à 15 000 voix. Puis aux élections régionales, 17 000 voix. Là, ils font 22 000 voix à Montpellier. Donc ça veut dire qu'ils ont plus que doublé leur score en 4 ans. Est-ce que effectivement c'est pas un risque de
Revenons un peu en arrière si vous voulez faire le parallèle entre Macron et Sorel. Finalement, on se rend compte que quand il est élu, Philippe Sorel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit écoutez, Maintenant, il n'y a plus que moi face au Front National. Et depuis qu'il dit ça, le Front National explose.
Ni droite ni gauche,
voilà.
Ni droite ni gauche.
Et finalement, moi, je ne suis pas un tenant de la droite, de la gauche. J'ai des copains de gauche comme de droite. Je suis plutôt étiqueté le gaucho de droite. Hein.
Ouais, on a compris, vous l'avez dit
non,
tout
non,
à l'heure.
C'est ce qui se dit. Donc moi, j'assume ça, je n'ai pas de souci avec ça. Mais c'est très dangereux ce qu'il a fait. Et si Macron, et je rejoins, enfin, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, si Macron a cette ambition-là, au niveau national, c'est moi ou le Front National, ça va être une pétaudière absolue parce que c'est le Front National qui va monter. Voilà.
Et encore plus, donc pour revenir aux élections
législatives.
Législatives qui vont se dérouler dans très peu de temps, je vous rappelle que c'est les
11 et 18 juin.
Et 18 juin, Général de Gaulle.
Oui, je vois.
vous connaissez. Bon, oui. Donc 11 et 18 juin, on va voir ces élections législatives, des candidats de droite partout. Mm-hmm. Il n'y aura pas quelques... chose avec les macronistes, il va rien se passer, on ne sait pas, nous on est un peu, nous les commentateurs, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, en tout cas, chez les macronistes, j'ai déjà compris, c'est très compliqué.
Ah, il y a déjà des dissidents quelque part macronistes, parce que Frédéric Borre, que vous connaissez bien évidemment très bien, aspirait, sans trahir le secret, je pense, à l'étiquette macroniste. Il ne l'a pas eu. Il maintient sa candidature.
Et donc, il se retrouve
face à Patricia Mirallès, qui est envoyée clairement pour tuer Borre, pour pas que Borre se présente au municipal. Hein. Je veux dire, moi, je ne suis pas là pour faire la langue de bois. Mmh. Il y a déjà des dissidences chez les macronistes. Vous croyez que Ben Ali, sur la deuxième, est ravi que Mme Jeannin, qui a découvert M. Macron il y a une semaine, ait l'investiture? Alors que, bon, je ne le connais pas, Ben Ali. Hein. Mais attendez, je suis désolé.
Je vous en prie.
Il y a un dévoiement à Montpellier pour installer le pouvoir de Philippe Sorel, mais je pense que c'est une erreur politique, du mouvement En Marche. Et j'aime autant vous dire que moi, je connais des gens qui sont sincèrement En Marche à Montpellier, qui sont très déçus du casting sur ces deux circonscriptions.
On en connaît aussi. On a l'occasion plusieurs fois de recevoir Coralie Dubos, qui, elle, je pense, ne doit pas être très contente. Alors,
rappelez-vous
de
l'interview qu'elle a faite chez vos collègues du Midi Libre, quand elle a dit que ce n'est pas Philippe Sorel qui va dévoyer le mouvement et imposer ses candidats. Je vous rappelle qu'au départ, il avait dit que j'aurais 5 candidats aux législatives. Au jour d'aujourd'hui, il y en a 2. Il essaye d'imposer Abdiel Kandoussi sur la 8e circonscription. Il pense que personne n'est au courant, mais c'est son objectif. Je ne sais pas si, mais ça ne me regarde pas si Macron va accepter ça. Mais s'ils acceptent ça, je pense que le dévoiement va aller encore plus loin. Quoi.
Jean-Pierre Catouac, qui est un observateur maintenant, après avoir été dedans, maintenant tu es dehors, tu es un observateur de la vie politique. Qu'est-ce que tu penses de tout ce, toute cette histoire?
Il y a une chose qui m'a frappé quand même. Il y a une circonscription sur laquelle il n'y a pas de candidat Macron, c'est la 8e.
Il y en a 2, il y a la 7 et la 8.
Il y a la 7. Ouais. Mais disons, dans le périmètre montpellierain, effectivement, la 8 n'a pas de candidat Macron.
Pour le moment.
Voilà, pour le moment. Donc, et puis... Quand même, sans être naïf ni avoir siégé au sein de la commission d'investiture, présidée par M. Delevoye,
nos anciens collègues.
Oui.
Absolument. Il y a une chose qu'il faut savoir quand même, c'est la conscience du poids des uns et des autres. Quand vous avez... Alors, on peut dire que c'est pas juste, c'est juste, c'est pas le problème. Quand vous êtes... C'est Staline par rapport au pape. Combien de divisions? Quand vous avez le maire de la 7e ville de France qui dit « moi j'apporte mon soutien à Macron », c'est normal que les gens disent « bon, c'est combien de divisions ?» S'il dit « j'ai 25 000 personnes qui votent pour moi
». Oui, sauf qu'au premier tour, il fait 23%.
Oui, non, je sais bien. Mais bon, il représente un certain poids. C'est dans l'imagerie ou dans l'imaginaire plus exactement populaire, on dit où le maire s'engage, comme Colomb l'a fait. Moi, je pense que l'inconvénient auquel ont été confrontés les jeunes macronistes, c'est un, pour la plupart, de ne jamais avoir été militant, de ne jamais avoir appartenu à un parti politique, etc. Donc être un peu novice. Et ils ont pensé que comme il y avait une dynamique, tout allait leur sourire. Sauf que la politique, c'est d'abord...
Il y a la réelle politique.
C'est un rapport de force.
Ouais. Et puis au niveau purement législatif, il ne faut pas oublier, c'est un combat au quotidien avec, dans la rue, les gens à rencontrer. Hein, c'est ça.
Et je
comme
vous
les
dire...
municipales, d'ailleurs.
Bien sûr, c'est une œuvre de terrain. Mais je pense que le poste le plus important, à mon sens, si Macron a une majorité, ce ne sera pas le Premier ministre. Ce sera le ministre en charge des relations avec le Parlement.
Ah, ça, c'est clair.
Parce que ça va être une gymnastique quotidienne. Moi, j'ai travaillé un peu quand j'étais étudiant en droit pour Willy Di Meglio, qui était député, que vous avez connu. Alors, j'étais à titre bénévole. Hein, mais
Comment vous étiez pas payé à rien faire?
Non. J'étais responsable des jeunes et j'étais. Mais donc j'ai vu le travail législatif de Ouli Dimeglio, qui était un député très bon puisqu'il était un député de dossier et
grand spécialiste des finances publiques.
Grand spécialiste, notamment de la Méditerranée. Ouais. Mais Willy, moi, je l'ai côtoyé au moment de composition de gouvernement où il devait y être, plus il y a des choses comme ça. Et je l'ai vu aussi à l'Assemblée au quotidien. Il faut maîtriser les choses. Il faut les maîtriser quand c'est des députés professionnels. Déjà, on voit à peu près les ressorts. Mais quand c'est des gens qui sont amateurs, sans
des
que ce soit péjoratif,
novices, ouais,
ça va être, mais excusez-moi, ça va être la chienlit absolue. Ouais. Donc, le ministre des Relations, en charge des relations avec le Parlement, il va être crucial. Ouais, ce sera de Levoix, j'imagine, d'ailleurs.
Oui, vous pensez.
Si Macron gagne.
Oui, ce qui serait relativement
logique. La logique.
Bien sûr.
Il faut connaître sa majorité.
Oui, d'autant plus qu'il a été maire, association des maires de France,
oui,
etc.
Donc c'est quelqu'un. Il a des relais, il faut des relais dans les assemblées.
Ministre,
hein.
etc. Oui, absolument. Bien, écoutez,
on avance doucement vers la fin, mais on n'y est pas encore tout à fait. Il nous reste encore 2-3 minutes. Alors, si vous voulez bien, on va passer doucement une petite maxime, et puis après, on fera la conclusion avec Alex Larue qui nous a fait. La gentillesse de venir dans les studios de Divergence pour parler, vous avez vu, à bâton rompu.
Ouais, mais moi, je me régale, j'adore parler politique,
voilà,
comme je disais.
De choses et d'autres, hein, on a évoqué beaucoup de choses. Jean-Pierre, une petite maxime.
Alors, moi, j'aime bien dans les maximes que j'extirpe de mes archives, j'aime bien, de temps en temps, le côté un peu caustique, voire cynique, etc., parce que je trouve que ça relance le débat. Et alors, celle d'aujourd'hui, je la trouve tellement appliquée.
L'actualité.
Aux vicissitudes de la vie politique. Je l'ai cherché chez Winston Churchill.
Grand homme.
Et qui a dit la chose suivante, parmi d'autres. Il a dit: un bon politicien est celui qui est capable de prédire l'avenir et qui, par la suite, est également capable d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas produites exactement comme il l'avait prédit.
Ça, c'était vraiment un résumé du bon politicien, on peut bien dire. Sûr. Mais c'est un trait d'humour. Donc, je pense pas que vous adhérez totalement à cette maxime.
Si, mais vous ferez l'amitié de constater que je suis pas tombé dans le piège, parce que quand vous m'avez demandé qu'est-ce qui va se passer, je vous dis, je n'ai pas la moindre idée.
Ouais,
donc j'ai pas ce travers-là. J'en ai sûrement d'autres, mais j'ai pas ce travers-là.
Et puis, vous vous rappelez peut-être certainement que Winston Churchill, il avait un ami ennemi qui s'appelait le général de Gaulle, avec lequel ils entretenaient des relations pour le moins tendues.
Mais ils ont su travailler sur une cause noble à un moment donné.
Absolument.
Et après, ils se sont opposés même au quotidien sur cette cause noble.
La grande différence.
Ah non, mais ça, j'ai suivi.
Non, mais la grande différence, c'est que en 1945. Oui. Le général de Gaulle a été chargé de former un gouvernement dans lequel il y avait les communistes, les NSP, etc. Alors que Churchill a été battu aux élections. C'est la grande différence entre les deux hommes. Même si de Gaulle est parti.
Puis revenu. Et puis...
Voilà. Donc on était ravis de recevoir Alex Larue. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il est de Montpellier. Vous êtes montpelliérain, vous êtes avocat.
Oui.
Et puis vous êtes donc élu municipal d'opposition.
Oui.
Ah bah oui, là, vous n'êtes pas encore...
Je ne suis pas dans la majorité,
vous
Philippe Sorel, contrairement à certains de mes amis républicains.
Qui ont tendance à aller à droite, à gauche.
Oui, c'est vrai.
Ah bah, c'est le sujet d'ailleurs, la candidature Sébastien Vallonne, c'est de dire, écoutez, moi je ne suis pas dissident parce que les gens que je soutiens ne sont pas dans la majorité de Philippe Sorel.
Et voilà. Vous allez aussi à la métropole, évidemment, puisque c'est un peu le
mercredi soir, à 16h, parce que maintenant on a avancé les horaires.
Et les débats, ça va ça...
Bah, je me sens souvent seul, mais ça forme le caractère. Et puis là, on aura des débats encore intéressants mercredi, je pense.
Voilà. Bon, et puis écoute, on va suivre avec attention d'abord la nomination du nouveau gouvernement français, avec ce Premier ministre, maire d'une ville qui m'est chère, puisque je suis né au Var.
Ah, mais c'est pour ça, je comprends tout. Je comprends tout.
Voilà, c'est pour ça
petit sourire depuis tout à l'heure.
Voilà. Et puis...
un immigré, donc.
Voilà, je suis un immigré dans le Sud. Comme
on est tous des immigrés.
Voilà. Et puis, donc, après, on va regarder avec grande, grande attention les législatives.
Et tout cela...
Française, français.
C'est grâce à vous.
Notre route est droite. Mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
La présidence de la République, ça n'est pas un radio-crochet.
Ça, c'est une autre façon de faire de la politique.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf.